là, maintenant, nous allons pouvoir parler de la parole de Dieu. Moi, je suis tellement reconnaissant. Le Saint-Esprit est tellement uni dans ce qui a été chanté, dans ce que Charles a apporté, dans ce que toi, Pierre-Alain, tu as ajouté il y a un instant. Il y a une telle unité parce que je vais vous parler de Dieu notre Père. L'est-il vraiment ? Point d'interrogation. Et pour cela, tu peux déjà lancer une petite chose là, voilà. Et nous allons faire deux lectures dans le même évangile, l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 3 à 13. Il leur dit encore, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il, quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et puis, dans Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de mon adversaire !» Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, et pour que jusqu'à la fin, elle ne vienne pas me casser la tête ou les pieds. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? J'étais comme frappé, arrêté, interpellé, vous allez rire. Justement, quand nous avons chanté avec le groupe de louanges le chant d'enfant Barba Papa il y a 15 jours. Hein? Mon papa sur la terre n'est pas mal du tout, il est fort, j'en suis fier, je l'aime beaucoup, mais j'ai un autre père bien plus idéal. Il n'est pas sur la terre, mais il est génial. Et boum, la pensée de Dieu est venue me frapper en plein cœur, en pleine tête. Oui, mais certains de mes enfants que j'aime pourtant ne me connaissent pas vraiment comme ça. Alors j'ai commencé à réfléchir et à creuser un petit peu la thématique. C'est pour ça que j'ai donné ce titre, « Dieu notre Père, vraiment ?» Et je crois que le Seigneur s'est en veut nous révéler son cœur. Il veut rapprocher ses enfants. Il veut restaurer ses enfants dans la communion. Il veut les guérir. Guérir leur cœur. Récemment, il y a 3 semaines, je vous ai fait l'éloge de la solitude et du silence devant Dieu, propice pour nous révéler la présence du Seigneur. Vous vous souvenez? Et je vous ai proposé de faire un exercice de débutant de 10 minutes par jour, sans téléphone mobile, sans stimuli extérieur, simplement vous et vous-même. Vous et vous-même devant Dieu et de le laisser pénétrer vos pensées, lui permettre que les sédiments de votre âme retombent. Et tout à l'heure, quand nous étions en louange, j'avais cette parole pour quelqu'un, ton âme est dans le brouillard. Mais le brouillard, ce sont toutes les choses après lesquelles tu cours, avec ton âme qui n'est pas rassasiée. Et le Seigneur te dit, je veux remplir ton âme, je veux trouver ton cœur, je veux habiter avec toi. Voilà. Ne serait-ce que ça, je pourrais m'asseoir puis j'aurais fini. Parce que c'est déjà tellement fort ce que Dieu veut te dire et ce qu'il veut faire dans ton cœur. Mais le passage, les passages que je vous ai proposés sont bien connus, ils ont quand même quelque chose à nous apprendre de plus. Mais souvent, on les aborde mal et on tire des conclusions erronées de ces deux passages. On évoquera volontiers un de ces textes comme étant la promesse formelle que le Saint-Esprit est pour ceux qui en font la demande. On citera volontiers l'épisode de l'ami prêtant les trois pains à contre-cœur comme étant l'exhortation à persévérer envers un Dieu qui est un peu dur de la feuille. Et on verra l'opposition pain, pierre, poisson, serpent, œuf, scorpion, persuadant que Dieu, finalement, ne va donner que de bonnes choses. Alors, si ces conclusions auxquelles on arrive ne sont pas fausses, il faut cependant réaliser que ces textes doivent être abordés ensemble pour livrer leur message de fond. À mon avis, quand on médite cette globalité, on arrive à la conclusion que ces paroles de Dieu pointent à une réalité beaucoup plus fondamentale que la simple promesse pour le Saint-Esprit ou l'insistance comme un secret d'exaucement. Il y a plus à comprendre que simplement cela. Ça nous invite à une autre réflexion. Vous savez, nous sommes, il faut le reconnaître, nous sommes naturellement enclins à désirer des résultats à la prière. Nous voulons que la prière marche, qu'elle fonctionne, qu'elle produise. Nous voulons des exaucements. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit parce que nous comprenons les bienfaits et nous désirons les conséquences positives dans nos vies de la visitation du Saint-Esprit. Nous frappons volontiers à la porte de Dieu parce que nous voulons qu'elle s'ouvre. C'est juste. Mais vous allez certainement le comprendre, il est possible d'avoir la foi pour la foi, ou du moins pour ce qu'elle rapporte. Et on peut s'engouffrer dans une piété matérialiste. Je crois en Dieu, il me le doit. Je fais la bonne prière, j'ai tiré la bonne ficelle dans le dos de Dieu pour agiter son bras. Voilà. Il est même probable que nous puissions entrer dans une piété donc mercantile qui considère les miracles, les exaucements comme l'approbation de Dieu sur notre vie. Puis s'il n'a pas répondu comme on priait, ben Dieu ne nous aime pas vraiment ou alors il ne nous approuve pas. Et on verrait dans les exaucements la preuve, voire le but de notre relation avec Dieu. Or, s'il est évident que Dieu est souverain, j'espère que vous me suivez, cramponnez-vous s'il vous plaît, il n'y a pas de poignée comme dans les bus, mais cramponnez-vous. Il faut se souvenir que Dieu est avant tout amour avant d'être miracle ou exauceur. Dieu est avant tout un Dieu de communion, de relation, de rencontre. Je suis convaincu qu'il est possible de tellement courir après le miracle, le miraculeux, le surnaturel, d'un exaucement attendu et demandé, qu'on en manquerait la source, qu'on en oublierait la relation. Je constate cela, par exemple, lorsqu'on est amené à douter de l'existence et de l'amour de Dieu, lorsque nous ne recevons pas selon nos attentes. Nous sommes dans une société de consommation qui veut que ça marche. Or, Dieu est hors du temps. Il est hors de notre société. Il est hors de nos systèmes. Il est hors de nos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, dit Dieu. Et il continue à affirmer sa souveraineté sur nos vies. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils reçoivent des miracles sur miracles. Ah non. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, tel est le but à l'existence. Quelle devrait être notre vraie raison de vivre? Connaître Dieu par Jésus-Christ. La communion avec notre Père céleste, c'est la seule valeur qui sera éternelle et qui nous emportera dans l'éternité avec Dieu. La communion avec notre Père céleste. C'est pour ça que Jésus dira, je ne vous connais pas à ceux qui disent, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais je ne vous connais pas, parce que vous ne me connaissez pas vraiment. Voyez-vous, la seule valeur éternelle, c'est la communion avec Dieu, parce qu'elle est basée sur l'amour, parce que Dieu est amour. Et ce matin, je veux nous inviter à nous approcher de ce Dieu au travers de ces textes que nous avons lus, et ce qu'ils disent de lui. J'aimerais que nous puissions comprendre qui il est, afin de pouvoir venir à lui avec un élan de foi renouvelé. Je ne sais pas lequel il faut appuyer, mais... Ah, ça je peux pas. D'accord. Comment Dieu n'est pas? Parce qu'il faut corriger parfois le tir. La première chose que nous pouvons comprendre de Dieu, c'est ce qu'il n'est pas. Car l'exemple de l'ami réveillé en pleine nuit et qui rechigne à rendre service est donné avant tout pour nous faire comprendre que Dieu n'est pas comme lui. Dieu n'est pas quelqu'un à qui on doit scier la caramelle pour qu'il réponde. L'ami à la place duquel il faut se mettre est réticent à réveiller toute sa maison, ils dorment tous dans la même pièce, à débloquer la porte qu'on fermait avec des barres pour la sécuriser de l'intérieur. C'était du boulot, quoi. C'était un vrai dérangement. Il se fait prier, il hésite, on n'a pas à l'importuner. S'il consent à ouvrir et à accéder à la demande de son ami, c'est uniquement pour en avoir fini avec le casse-pied. Son importunité, du reste c'est un terme qui est utilisé, c'est le caractère de celui qui est sans honte, sans gêne, sans pudeur. Alors il est intéressant de mettre cette histoire, cette parabole, avec une autre parabole, celle du juge unique que nous avons lue, dans laquelle, à force de persistance, la veuve a obtenu gain de cause. Il ne répond pas parce qu'il est juste, mais parce que la veuve insiste et réclame sont dus. Le Seigneur n'est pas à l'image de l'ami, il n'est pas à l'image du juge. En donnant ces exemples aujourd'hui, Jésus veut montrer la bonté de Dieu. Contrairement à l'ami grincheux, le Seigneur écoute et répond. À celui qui frappe, il ouvre. Pas besoin de cogner sans fin et de l'apitoyer. S'il répond, ce n'est pas pour se débarrasser de celui qui fait appel à lui, car ses sentiments sont bien plus profonds que ceux d'un ami. Jésus veut dire ceci, la qualité de relation que Dieu veut avoir avec nous est celle d'une profonde amitié, supérieure à celle que le meilleur des amis pourrait donner. Nul besoin d'être important. Si l'ami devant la porte pouvait être considéré comme un sans-gêne, celui qui vient à Dieu n'a pas à éprouver de la honte. Dieu n'est pas comme ça. Oui, non. Ah, j'ai fait en arrière. Voilà. C'est comme sur une voiture, ce machin. Nature de la paternité de Dieu. Ou autrement dit, ce que Dieu est. Le deuxième élément que ce texte nous enseigne, c'est comment est Dieu. Jésus utilise l'image que chacun de ses interlocuteurs pouvait comprendre, celle d'un père et de son fils. Si donc, vous qui êtes mauvais, ce terme mérite qu'on s'y arrête un petit peu parce que Ponrov en grec signifie méchant, malin, tordu. Donc vous êtes vous qui êtes tordu, méchant, malin. Et c'est le même terme qui est utilisé dans la prière sacerdotale. Mais délivre-nous du tordu, du méchant, du malin. Voilà. Mais c'est aussi un terme qui décrit l'état dans lequel se trouve celui qui est pressé, harassé de labeur. C'est aussi Ponrov. Celui qui est rempli de contrariété aussi. Ça vous dit quelque chose? C'est une assez bonne description de l'état dans lequel se trouvent bien des pères aujourd'hui. Stressés, pressés, remplis de contrariété, harassés par le labeur. Si malgré tout, les papis, hein, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, d'autant plus le père donnera-t-il. Dieu n'est pas un père à notre image, Dieu merci, j'ai envie de dire. Par contre, soit dit en passant, nous devons, nous les pères et les grands-pères, tendre à devenir des pères selon le cœur de Dieu. Les pères, cessez de confier intégralement l'éducation de vos enfants à votre épouse. C'est vrai que c'est difficile quand le papa est parti à 7 heures le matin pour aller bosser, puis il revient à 7 heures le soir ou 7h30 quand les gamins sont déjà en pyjama et prêts à aller au lit. C'est difficile, je reconnais. Mais utilisez toutes les occasions possibles pour être des pères à l'image de Dieu. Priez avec vos enfants. Apprenez-leur la prière. Apprenez-leur la Bible, vous les pères. Soyez des pères selon le cœur de Dieu. Donc Dieu n'est pas un père à notre image. Ce que Jésus veut dire, c'est que notre père n'est jamais rempli de contrariété ou harassé. Il n'est jamais pressé. Il n'y a rien en lui de mauvais ni de malin. Il est bien ce père parfait, aimant, qui veut nous entendre et nous répondre. Alors voilà, certains doivent faire un chemin et retrouver cette confiance en ce Père parfait, idéal. Est-ce que Dieu répond à nos prières? Vraiment? Et lorsqu'apparemment, il ne répond pas. Moi, ça m'est arrivé. À qui c'est arrivé que Dieu ne leur a pas répondu? Oh! Frères et sœurs. Est-ce qu'il est vraiment ce Père parfait lorsqu'il ne nous répond pas? Moi, je me souviens que dans l'éducation de mes enfants, parfois, je ne répondais pas. Joël rigole, Sylvain aussi. Mais je crois qu'il est ce Père parfait. Un Père digne de ce nom n'acquiesce pas toujours à ce que ses enfants demandent. De loin pas! De loin pas! Et dans la pratique de l'éducation permissive à outrance, où l'enfant est roi, je pense que c'est le pire service qu'on rend à l'enfant en ne le contrariant jamais. Contrariez vos enfants. Dites leur non quand ça se justifie. et tenez ferme. C'est le meilleur moyen de donner des repères. Vous serez des pères avec repères si vous savez dire non. Vous savez, si on ne contrarie pas ses enfants, ils ne deviendront pas des adultes qu'ils sont appelés à devenir. Un non d'un père ne signifie pas qu'il n'aime pas, au contraire. Il sait ce qui sera bon et équilibré pour son enfant. Et ça m'est arrivé de dire un non catégorique à mes enfants et même à mes petits-enfants, les chéris. Alors, frères et sœurs, dépassons parfois nos frustrations et entrons dans la confiance et le respect du Père qui sait mieux ce qui est bon pour nous qui, dans notre humanité, avons parfois des pots de saucisses devant les mirettes. Oh non, c'était faux. Ce qu'il s'agit de rechercher alors. Moi, je suis sûr que vous êtes comme moi, vous aimeriez avoir plus du Saint-Esprit manifesté dans vos vies, n'est-ce pas? Oh, plus de transcendance dans notre quotidien. Oh oui. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que cette transcendance, cette visitation de l'Esprit est la conséquence de la relation cultiver et rechercher avec Dieu. Oui. Je me souviens d'avoir entendu un responsable d'église parlant d'une femme profondément dépressive, suicidaire et malheureuse. Il disait « Oh, ce qu'il lui faudrait, c'est un bon baptême dans le Saint-Esprit. » J'objecte quand même un peu, parce que ça, c'est un petit peu facile de dire « Oh, il n'y a qu'à. » Il faut d'abord que la personne s'approche de Dieu, dans la repentance sincère de ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle est encore, et puis qu'elle demande au Seigneur de venir habiter en elle, alors le Saint-Esprit fait son œuvre. Ce qu'il lui fallait, c'était une bonne repentance et puis une réconciliation fondamentale avec son Dieu par Jésus-Christ. Ce qu'il lui fallait, c'était entrer dans l'amitié de Dieu, le seul et parfait ami. C'est connaître Dieu comme Père, prêt à guérir nos vies. Alors, plutôt que de rechercher telle ou telle intervention divine, tel don ou telle manifestation, tel miracle, cherchons Dieu, cherchons à mieux le connaître, invoquons-le, demandons-lui de se révéler par Jésus-Christ. Quelle relation avons-nous avec lui? Avons-nous une relation commerciale, mercantile, utile? Où sommes-nous vraiment conscients qu'il est notre Papa parfait, qui s'est approché de nous au travers de Jésus et qui nous voit au travers de son Fils comme des chéris de son royaume? Entrez dans son intimité. S'il y a une persévérance à poursuivre, ben c'est bien celle-là. Le mieux connaître, mieux l'aimer, passer plus de temps en sa présence. Et si vous prenez goût aux 10 minutes, vous verrez qu'elles deviendront 15. Et puis, si ça se trouve, certains jours fastes, ce sera même 20, voire 30. Et où vous communierez vraiment avec le cœur même de Dieu. Et où il mettra sa pensée dans vos pensées. Et vous, quand vous intercéderez, ce sera dans une humilité profonde, une obéissance profonde, prêt à accepter la volonté bonne et parfaite du Père. C'est tout le bien que je nous souhaite, frères et sœurs. Quittons nos quêtes passionnées, à défaut d'être passionnantes. Si nous demandons mal pour satisfaire nos passions et nos désirs, nous recevrons mal ou pas du tout. Mais entrons dans l'intimité du Père. Cherchons le Père, laissons-nous remplir de son amour. Permettons à l'Esprit de nous conduire dans cette relation d'intimité avec lui. Et toutes choses seront données en plus. Amen. la scène va nous être présentée. Vous savez, Jésus, notre frère aîné, est avec nous. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas encore arrivé. Mais il est là, avec nous. Et si nous avons quelques craintes ou quelques réticences à nous approcher du Père, Jésus nous y convie, il nous mène au Père. Et quand nous prenons le pain et le vin, nous prenons le souvenir de ce que ceci a été rendu possible pour que nous puissions nous approcher du Père. Alléluia. Seigneur, je crois que je te connais un peu mieux qu'il y a 30 ans. Mais pas encore assez et pas encore parfaitement. Et si tu me prêtes vie, dans 10 ans, je te connaîtrai un peu mieux. Merci pour la révélation de ta présence et de ton amour. Je te prie pour ces personnes dont j'ai eu l'intuition, qui sont dans la brume, dans le brouillard, de tout ce qui occupe inutilement leur vie. Seigneur, transcende, viens te révéler. Sois le Père que nous pouvons aimer librement. Alléluia. Amen.